Salut. Et parfois, on peut se demander, poser la question spirituellement, comment est-ce que je vais ? On vit tous un quotidien qui est chacun le nôtre, n'est-ce pas ? Et avec ses hauts et ses bas. Et puis parfois, on a besoin de se jauger. Comment est-ce que je vais ? Et une bonne façon de jauger notre état spirituel, c'est de lire le livre de l'Apocalypse. Alors c'est un livre, je ne sais pas si c'est votre livre de chevet, si c'est votre livre que vous lisez le plus, c'est pas un livre facile. Mais il est dans la Bible et il termine la parole de Dieu. Donc, voilà. Et est-ce que vous êtes plutôt heureux en le lisant ou plutôt effrayé ? On peut avoir les deux attitudes. Heureux ou effrayé ? Et ça aussi, c'est une bonne façon de se juger. Le non-croyant, il a des raisons d'être effrayé par ce livre. Il a des raisons d'être effrayé parce qu'il y a des jugements qui sont annoncés sur tous ceux qui ne se sont pas repentis ou pas encore repentis ni cru en Jésus. Et il est encore temps de le faire. Mais pour nous, croyants à l'Église de Jésus-Christ, ce livre commence, le livre de l'Apocalypse commence par un encouragement à le lire et à l'entendre. Parce qu'il doit nous rendre heureux. Il doit nous rendre heureux et non pas nous effrayer. Je lis le verset 3, je le relirai après. Chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Êtes-vous plutôt heureux ce matin ? Alors, il s'agit donc de faire une lecture publique de ce livre. Ce livre nous y invite, et Dieu promet. Il promet la bénédiction, aussi bien quand on le lit à haute voix, celui qui lit à haute voix, qu'à tous ceux qui l'entendent, et qui la prennent au sérieux en la gardant, même si on ne comprend pas tout. Alors je vais le lire, Apocalypse chapitre 1, et avant ça je vais prier. Père Céleste, je te remercie encore pour ton Église que tu construis, que tu bâtiras jusqu'au bout parce que tu es fidèle, Seigneur, et nous comptons sur toi. Merci pour ce livre qui termine ta parole, Seigneur, ta parole révélée, Seigneur, et nous te demandons de nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour la prendre, pour nous l'approprier, Seigneur, dans nos vies, pour la laisser agir dans nos vies. Tu nous l'as laissé, Seigneur, tu as pris soin précisément, Seigneur, de nous la laisser, c'est pour nos vies, Seigneur, alors qu'on se l'approprie, qu'on s'en nourrisse. Merci, au nom de Jésus. Je lirai donc Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. » Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors quand on lit attentivement ce livre et avec quel soin Dieu a demandé à son serviteur Jean de l'écrire, ça nous invite d'autant plus à y prêter attention. Alors ce livre de l'Apocalypse, il a suscité beaucoup de questions. Et aujourd'hui, quand on dit c'est l'Apocalypse, c'est même rentré dans le langage courant, même un non-croyant, ça évoque pour un non-croyant du moins une grande catastrophe. Quand on dit c'est l'Apocalypse. Ce livre, en tout cas, il a suscité beaucoup de questions. Il y a beaucoup de chiffres dans ce livre. 144 000, 7, le chiffre de la bête, 666. Il y a aussi beaucoup d'images fantastiques, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici sur Terre. Qu'on nous a décrit et qui font travailler notre imagination. Le dragon, les étoiles qui tombent du ciel, beaucoup de sang, des créatures jamais vues. Alors ce livre, oui, il peut aussi bien nous effrayer que nous encourager. Et pour le croyant, c'est la deuxième option qui prévaut. Alors est-ce que vous passez par des moments difficiles en cette période de pandémie, de Covid, qui est vraiment au cœur de l'actualité, Alors, sommes-nous dans l'Apocalypse? On se pose la question et ça circule sur Internet. Moi, je crois d'une façon certaine qu'on est dans les derniers temps, que le Seigneur revient. Quand? Bientôt. Ça, c'est clair, même si ça fait 2000 ans qu'on attend. Nous vivons des temps difficiles, oui. Mais en comparaison de ce qui est encore à venir, qui est décrit dans l'Apocalypse, eh bien, on peut voir ces temps difficiles, cette pandémie, ce coronavirus, comme un avertissement et un encouragement à se tourner vers Dieu avant quelque chose de bien plus grave. Et ça vaut bien sûr pour tous nos contemporains, tous ceux qui vivent sans Dieu, et chacun a été amené à un moment donné de se poser la question, qu'est-ce que faire avec ça? Alors déjà, laissons tomber, je reviens à l'Apocalypse, laissons tomber nos idées préconçues. L'idée principale, il faut se poser la question, l'idée principale du livre, c'est quoi? L'idée principale de l'Apocalypse n'est pas la destruction du monde. Ce n'est pas un livre catastrophe. Ce n'est pas non plus une annonce de fin du monde. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'annonce de date. Et certains se sont aventurés à avancer des dates et ils se sont bien fourvoyés. Ce n'est pas non plus l'idée principale de la marque, l'identification de la marque de la bête. L'idée principale, ce n'est pas non plus la bête elle-même, même si bien sûr ça figure dans ce livre. Alors c'est quoi l'idée principale? Eh bien, déjà le titre du livre, le mot apocalypse, ça veut dire révélation. En anglais, c'est traduit comme ça d'ailleurs, révélation. Et une révélation, c'est fait pour nous éclairer, c'est pas fait pour nous rendre confus. Une révélation nous présente quelque chose d'inconnu, qui était voilé jusqu'alors et qui existe. Ce n'est pas le fruit de notre imagination. Donc ce livre, il n'est pas fait pour nous rendre perplexes. Et plusieurs questions se posent à nous, qu'il faut se poser. Quel est l'objet de cette révélation? De qui est-elle? Qui nous l'a donnée? Et pour qui est-elle? Eh bien, le verset 1, on a un début de réponse. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est donc une révélation que Jésus lui-même a reçue de Dieu son Père. Révélation qu'il a donnée à l'apôtre Jean par l'intermédiaire de son ange pour que Jean serve de témoin. Parce qu'une révélation, elle doit être attestée. Une vision, elle doit être attestée. Et elle a été donnée à Jean, pourquoi? Pour qu'il la mette par écrit. Et elle nous est arrivée, jusqu'à aujourd'hui, on l'a dans la parole de Dieu. Verset 11, verset 19, deux fois, hein, pour qu'il la mette par écrit. Et pour que cette révélation nous parvienne comme Dieu le veut. Alors, pour montrer à ses serviteurs, qui sont les serviteurs? Alors, est-ce que ce sont les responsables, les pasteurs, les missionnaires? Oui, mais pas seulement. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Jésus-Christ. Nous, c'est les membres de son Église. Donc, cette vision, elle est pour nous tous. Pour nous tous. Et nous ne nous disons pas, je suis pas assez intelligent pour la comprendre, cette vision, elle est pour nous tous. Qui croyons. Nous tous croyons. Et d'ailleurs, il s'agit de nous, son Église, et le verset 4, eh bien, nous le confirme, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Alors, ça se limite pas aux églises qui étaient en Asie mineure, en Turquie. C'est vraiment pour toute l'Église. Alors, pour toute l'Église, en tout temps et en tout lieu. Donc, c'est pour nous encore aujourd'hui, cette révélation. Verset 4, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, le chiffre 7, c'est un chiffre qui évoque la plénitude. Ce qui est complet. Donc, cette lettre, elle s'adresse pas seulement aux églises d'Asie mineure, mais à toute l'Église, en tout lieu, à toute époque. Donc encore aujourd'hui, encore à nous aujourd'hui. Cette lettre, il s'agit bien d'une lettre, c'est un courrier de Dieu. Et c'est précis, hein, c'est un courrier de Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un courrier du Dieu unique, trinitaire. Regardez, on trouve bien les versets 4 et 5, eh bien cette lettre, de qui elle est, de la part de qui? Je relis les versets 4 et 5. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, donc il s'agit de Dieu le Père, et de la part des sept esprits qui sont devant son Dieu, il s'agit du Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. L'être émanant de Dieu. Comme toute la parole de Dieu, oui. Alors, pour nous donner une révélation. Quelle est cette révélation? Eh bien, dans la description qui suit au verset 13 versets 13 à 18, il s'agit d'une révélation de Jésus-Christ sur Jésus-Christ, sur lui-même. Il est celui le mieux à même de se décrire. Jésus y est présenté comme le centre de la révélation, de l'Apocalypse. Voilà l'idée principale, Jésus-Christ. Alors, Jésus se révèle à son Église en tout lieu et à toute époque. Et je vous propose de voir, eh bien, comment est-ce qu'il se révèle, comment est-ce qu'il veut qu'on le voit. Premièrement, c'est ce qu'on va voir. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il se révèle de cette manière-là? Premièrement, voyons comment Jésus se révèle à nous, son Église. Au verset 5, Jésus se présente, on peut dire, tel que l'Église le connaissait avant la rédaction de ce livre. C'est-à-dire, le premier-né des morts, oui, le ressuscité, et le prince des rois de la terre. Alors, on peut trouver ça étonnant, vous ne trouvez pas? Est-ce que nous connaissons pas, nous, Église de Jésus-Christ, Jésus mort sur la croix pour nos péchés, et ressuscité pour toujours, et qui a reçu tous les pouvoirs? On sait déjà ces choses-là, n'est-ce pas? Est-ce que nous avions besoin d'une nouvelle révélation sur sa personne? Oui, c'est le pourquoi de ce livre. Au verset 4 et 8, pardon, eh bien, Dieu se présente lui-même, c'est Dieu là qui se présente. Il se présente comme étant celui qui est, qui était, et vous avez remarqué, non pas qui sera, mais qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Et au verset 7, eh bien, nous apprenons que celui qui vient, c'est celui qui a été percé. Je relis le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alors, à ceux qui nient la divinité de Jésus, voilà un verset qui remet les idées en place, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a été percé. Ces passages sont l'affirmation que Jésus, celui qui a été percé à la croix, eh bien, il est celui qui vient. Et celui qui vient, c'est Dieu lui-même. Jésus va revenir, c'est une certitude, soyons prêts. On ne sait pas quand, il revient bientôt. Ça, c'est effectivement, on peut déjà le dire, et va suivre une vision. Et une vision, eh bien, elle est faite pour être regardée avec attention. Cette vision, en quoi elle consiste? Eh bien, elle est faite de 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers, le texte nous explique que ces 7 chandeliers, c'est l'Église. Ce sont les 7 églises, d'après le verset 20, clairement. Ça veut dire l'Église universelle. Et puis, au milieu de ces 7 chandeliers, il y a un homme. Qui est-il, cet homme? Alors, regardons la description qui en est faite au verset 13. Il a une longue tunique, il a une ceinture d'or sur sa poitrine, et cette description, en tout cas le début, ça nous fait penser à la tenue d'un sacrificateur, d'un prêtre sacrificateur tel qu'ils étaient habillés, tel qu'ils nous sont décrits en Exode, vous pouvez prendre Exode 28:4, je vous donne les références, hein. C'était la description d'un prêtre. Jésus est notre souverain sacrificateur, il est notre grand prêtre par qui on peut s'approcher de Dieu. Quel était le rôle des prêtres? C'était des intermédiaires par qui on pouvait s'approcher de Dieu, du Dieu trois fois saint. On s'approchait pas de Dieu n'importe comment. Mais par Jésus, on peut s'approcher de Dieu à tout moment. Parce qu'il est notre grand prêtre, parce qu'il a offert le sacrifice suprême de sa vie, lui l'agneau de Dieu, grâce à son sang versé pour nous pardonner. Et un prêtre, le rôle d'un prêtre aussi, c'est de prier pour le peuple. Jésus est celui qui intercède pour nous. Et il intercède, et lui, contrairement au prêtre de l'ancienne alliance, c'est pas quelqu'un qui rentrait une fois par an et qui ressortait. Jésus, il est en présence du Père, il y est rentré pour toujours. Ça veut dire qu'il prie pour nous en permanence. Je vous lis Hébreux 9:12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors quel encouragement pour nous! Quel encouragement pour nous d'avoir ce grand souverain sacrificateur qui prie pour nous. Il est notre grand prêtre. Jésus est présenté comme étant notre grand prêtre, déjà dans le début de cette vision. Jésus donc, mais attention, Jésus n'est pas seulement notre grand prêtre, et aussi notre avocat. Hein. Il est notre avocat parce qu'il a accepté notre jugement. Il a accepté de porter notre jugement. Jésus est aussi le juge suprême des incroyants. Donc d'un côté, il est notre grand prêtre, notre avocat, celui qui prie pour nous, et le même Jésus, eh bien, il est le juge des incroyants. Et on va le voir. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme neige, nous dit le texte. Ça évoque la sagesse de l'âge, ça évoque la sainteté, ça évoque la divinité. Et dans l'Ancien Testament, on trouve des visions similaires. En Daniel, chapitre 7, verset 9, il est question d'un homme, et c'est le même. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Une vision similaire dans l'Ancien Testament. Le texte nous dit qu'il a des yeux comme une flamme de feu. Une expression qu'on retrouve deux fois dans le livre de l'Apocalypse, en 2, verset 18 et en 19, verset 12. Des yeux comme une flamme de feu, on peut s'imaginer, hein, on peut dire des yeux perçants. Et aussi, bien sûr, les yeux, ça évoque une connaissance parfaite de quelqu'un qui voit tout, qui voit ce que nous on ne peut pas voir, quelqu'un qui voit dans le cœur, et quelqu'un qui voit sans se tromper, et donc qui est à même d'exercer le jugement. Jésus est aussi le juge suprême. Pour nous, croyants, il est notre avocat, notre grand prêtre. Pour les incroyants, il sera leur juge, le juge suprême. La vision continue, il a des pieds comme du bronze et incandescent. Le bronze, on peut dire aussi l'airain. Eh bien, l'airain, il est symbole de pureté morale. Il est symbole de puissance, de fermeté, de quelque chose de solide, hein, dans la démarche. L'airain, ça s'applique aux pieds de cet homme. Et donc, quelqu'un qui marche avec des pieds solides, solidement, c'est le jugement qui vient sur la terre. Et puis, il a une voix comme de grandes eaux. Et cette expression, une voix comme de grandes eaux, on la retrouve, si vous voulez prendre la référence, en Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, 43, verset 2. Et là, dans l'Ancien Testament, ça s'applique très clairement à l'Éternel, à Dieu, à la voix du Dieu Tout-Puissant. Je continue la vision. Dans sa main droite, je pourrais vous donner les références après, si vous voulez. Dans sa main droite, cet homme, il tient les 7 étoiles. Et les 7 étoiles, eh bien, ce sont les représentants des 7 églises. Alors, Il y a plusieurs interprétations. Certains parlent d'ange, d'autres parlent de responsable d'église. En tout cas, retenons que ces étoiles représentent les sept églises. Je continue. De sa bouche sort une épée aiguisée à double tranchant. Et l'image de l'épée, eh bien, vous vous souvenez, elle désigne la parole de Dieu. Cette image, elle est reprise, chapitre 19, verset 15, je le lis, dans l'Apocalypse. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Dieu jugera le monde avec sa parole, avec l'épée de sa parole. Et l'image de l'épée, elle est aussi reprise en Hébreux 4, verset 12. Je vous le lis. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On peut pas être sur les deux côtés. Cette épée, elle tranche les sentiments du cœur. Et son visage, eh bien, il est éblouissant comme le soleil. Alors, comment interpréter cette vision? Bien sûr, il y a des commentaires, il y a des très, très bons commentaires qui sont écrits, mais le meilleur interprète de la Bible, ça reste encore la Bible. La Bible s'interprète elle-même. Et d'autres livres bibliques, eh bien, nous aident à comprendre cette vision. On les retrouve dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Par exemple, en Daniel, toujours Daniel chapitre 10, versets 5 et 6, vous retrouvez quasiment la même vision. Et à cette vision, Daniel, comment est-ce qu'il a réagi? Je vous lis Daniel 19, deuxième partie du verset 9. Je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et ici, pour l'apôtre Jean, qu'est-ce qui se passe? À cette même vision, l'apôtre Jean, il est tombé à son tour comme mort, nous dit le texte. Alors, c'est pas une vision ordinaire. Alors, en tout cas, l'homme se présente à Jean, cet homme dont il a la vision. Et il se présente, je relis les versets 17 et 18, il posa sur moi sa main droite, pardon, en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Plus de doute possible là. Qui a été mis à mort? Qui est revenu de la mort? Qui est vivant et a pouvoir sur la mort? Sinon, Jésus-Christ, mort pour nous et premier né d'entre les morts, ressuscité. Plus de doute, il s'agit bien de la vision de Jésus. Mais non plus le Jésus crucifié, mais ici le Jésus glorifié. Vision de Jésus glorifié. Jésus glorifié étant Dieu lui-même. Et vous avez remarqué l'expression « le premier et le dernier » que Jésus s'applique à lui-même. Cette expression, on la retrouve encore dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 44, verset 6, je vous le lis. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Encore un verset qui appuie, qui montre la divinité de Jésus. Celui qui a été crucifié, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Alors Jésus, eh bien, il est à l'origine de cette lettre. Dieu son Père lui a donnée pour nous la transmettre par l'intermédiaire de Jean. Et il veut donner à Jean et à nous aussi une nouvelle vision de lui-même. Il se présente glorifié comme étant Dieu lui-même. Il est à la fois Dieu. Il est à la fois roi des rois, il est à la fois prêtre et il est à la fois juge. Voilà le centre de l'Apocalypse, l'idée principale de l'Apocalypse, de nous présenter Jésus glorifié, roi des rois, prêtre, juge et Dieu lui-même. Et ce Jésus, Jean ne le connaissait pas encore. Jean, il est appelé le disciple bien-aimé, vous vous rappelez en Jean 21, verset 20. Il avait une intimité avec Jésus, il était proche de lui. Une relation aimante, aimable. Il aimait beaucoup Jésus. Il était très proche. Il avait assisté à ses miracles, à la transfiguration. Il avait assisté à son agonie aussi, depuis Gethsémané jusqu'à la croix. Et il a été un des premiers témoins de sa résurrection. Et Jean, qui autrefois se penchait sur la poitrine de Jésus, maintenant il tombe à ses pieds comme mort. Ce Jésus, Jean ne le connaissait pas. Et on a abordé ce texte en réunion en cellule de quartier dans ma précédente église, une petite cellule où il y a des personnes âgées et notamment une dame de 96 ans qui se dit catholique. Et je pensais que, en tout cas pour elle, c'était clair. Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité et il est glorieux. Mais j'ai vu cette dame être effrayée. Il y avait une peur sur son visage, qui se lisait sur son visage, en comprenant que cette vision s'applique à Jésus. À la manière dont elle voyait Jésus, eh bien, elle était incomplète. Oui, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, un catholique le dit aussi. Mais cette vision, elle ne se l'était pas encore appropriée. Alors, cette vision, eh bien, on ne peut pas rester indifférent devant Jésus. Et si un croyant comme Jean, qui était proche de Jésus, qui a connu Jésus en chair, a été épouvanté, qu'est-ce qu'il en sera d'un non-croyant ? Alors, je vous pose cette question, hein, et à nous autres églises, quelle est votre impression générale qui ressort de ce portrait ? Après cette description, quelle est votre impression ? Jésus, éblouissant, revêtu de puissance et de majesté. Eh bien, une attitude qu'on attend, enfin qui est normale, je vais dire, c'est que cette attitude devrait susciter, du moins, chez le croyant, de l'admiration, de la louange, un sentiment de sécurité, et peut-être aussi de la crainte, oui. Pourtant, Jésus se veut rassurant. Il se veut rassurant pour Jean et pour son Église. Pourquoi ? Il fait un geste qui est des plus rassurants. Hein. Après cette vision terrifiante, qu'a fait Jésus ? Il a posé sa main droite sur l'épaule de Jean pour le rassurer. Et avant la vision, Jean, eh bien, aussi pour nous préparer, il nous a rappelé que ce Jésus glorifié qui se révèle, eh bien, il est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a préparé, avant de présenter la vision, il a rappelé que Dieu nous aime, que Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous. Je relis les versets 5 et 6 et on peut dire, en tout cas je le crois, que ces versets 5 et 6, ça résume l'Apocalypse, le but de l'Apocalypse. Je relis les versets 5 et 6, la fin, à partir du verset 5, la fin. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors vous avez remarqué, les temps des verbes sont importants. À celui qui nous aime, pas qui nous a aimés, oui c'est vrai, mais il continue, et c'est au présent. À celui qui nous aime, il nous aime d'un amour éternel. Qui nous a délivrés de nos péchés, ça c'est du passé. Comment ? Quand il s'est sacrifié sur la croix. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. C'est un fait accompli par Jésus à la croix. Nous sommes libres de ne pas pécher si nous lui faisons confiance. Mais son amour, eh bien, il va plus loin que le pardon des péchés. Parfois, on s'arrête à « Oui, Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi, il te pardonne tes péchés. » Mais son amour, il est bien plus grand que le pardon des péchés. Ça commence par là, bien sûr. Qu'est-ce que veut Jésus ? Qu'est-ce que veut Dieu ? Faire de nous un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Nous sommes des prêtres pour Dieu son Père. Et un prêtre, le rôle du prêtre, c'est d'être toujours en présence de Dieu, de se tenir devant Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on soit en sa présence H24, et si on est dans notre temps terrestre, mais d'être en la présence de Dieu pour l'éternité. Alors l'Évangile ne se limite pas à Jean 3,16. Amen. Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais si on va en profondeur, la vie éternelle, c'est d'être éternellement dans la présence du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Et pas juste de temps en temps. Quand on en a besoin ou... Déjà, c'est déjà bien d'aller à lui, mais il veut plus. Il attend une communion sans limite avec nous. Voilà donc comment Jésus se révèle à nous, son Église. Maintenant, pourquoi Jésus s'est-il révélé glorifié à son Église? Pourquoi cette vision? Alors, ce livre, c'est un hymne de louange à Dieu. C'est un hymne. L'Apocalypse, c'est avant tout un livre de louange. C'est un hymne de louange à cause de sa déclaration d'amour envers nous. Et le but de ce livre, c'est de nous pousser à l'adorer pour nous donner envie d'être toujours avec lui. Dans la magnifique Jérusalem céleste, hein, à la fin du livre, il y a une magnifique description de la Jérusalem céleste et ça donne envie d'y être. Et en tant que prêtre, eh bien, que nous sommes, un prêtre offre des sacrifices. Quel est le sacrifice que nous pouvons offrir, que Dieu attend de nous? Alors, c'est pas un agneau. L'agneau, c'était lui, hein, le plus grand sacrifice qui s'est donné. C'est un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Ce sont nos merci que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut. Et d'offrir toute notre personne, à Dieu. Voilà le premier but de la vision, de susciter l'adoration chez le croyant. Mais pas seulement. Au verset 4, donc avant la vision, qu'est-ce que Jean a demandé? Il a demandé la grâce et la paix pour son Église. Dans quel but? Pourquoi? Eh bien, pour qu'elle ait la force de traverser les épreuves à venir et de résister à la tentation. Autre but de ce livre, d'encourager, de fortifier l'Église. Quand il y a des persécutions, bien sûr qu'on peut avoir peur, et c'est normal, mais à la fois, Dieu nous dit ne crains pas. Il y a des pays où ils vivent vraiment la persécution. Peut-être vous suivez, hein, le fil rouge de Porte Ouverte, vous savez, cette mission qui suit l'Église persécutée. En Inde, l'Église est persécutée. Le nouveau président s'est donné comme objectif de faire disparaître les chrétiens d'Inde d'ici la fin de cette année-là. Alors comment? Mais en tout cas, c'est son objectif. Il y a des chrétiens qui sont déjà persécutés. Nous avons encore certaines libertés. On ne sait pas demain, en tout cas, on ne sait pas. Mais le but de ce livre, c'est de nous fortifier et de ne pas craindre. Et quand même, quand on réfléchit à la vision glorieuse que Jean a eue, au point d'être épouvanté, Jean qui a connu la persécution, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à l'île de Patmos. Eh bien, la vision glorieuse de Jésus que Jean a eue a dû lui faire voir ses problèmes de persécution tout petit à côté. Jean était persécuté, mais quand il a vu cette vision de Jésus glorifié, a-t-il oublié ses problèmes de persécution? En tout cas, il avait devant lui quelqu'un de bien plus grand que ses problèmes, quelqu'un qui a le contrôle, quelqu'un qui a le contrôle sur tout. Et à l'époque, eh bien, quel impact cette vision a-t-elle dû avoir sur l'Église du premier siècle, époque où elle a été écrite? Quel impact cette vision a-t-elle dû avoir? Il faut se rappeler qu'il y a eu des persécutions au premier siècle, et pas des moindres. Et les chrétiens du premier siècle, ils étaient déjà minoritaires. Le christianisme ne s'était pas répandu comme il a été, comme il est encore aujourd'hui. Et ces chrétiens, ils étaient très éprouvés dans leur foi. À l'époque, c'était Rome qui dominait le monde, et l'empereur voulait se faire adorer comme Dieu, comme un Dieu. Mais dire Jésus est Seigneur, c'est incompatible avec dire l'empereur est Seigneur, César est Seigneur. Ça va pas ensemble. Il faut faire un choix. Et dans un premier temps, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été dispensés de cette adoration. Les chrétiens et les juifs. Ils n'étaient pas tenus d'adorer l'empereur. Mais ça n'a pas duré. Après, ils ont été forcés de le faire. Et certains, eh bien, effectivement, sont morts en martyrs. Jean se présente comme ayant eu part lui aussi à la persécution. Donc, il connaissait l'Église persécutée. Et ces textes sont là pour fortifier l'Église persécutée, ou qui le sera. Jean se présente comme ayant eu part lui aussi à la persécution, donc il comprend l'Église persécutée. Il se dit leur frère, lui, un vieillard emprisonné, qui a connu le confinement, il était dans sa prison. Et Dieu lui-même a donné à Jean cette vision, cette révélation. Et il lui a demandé par deux fois de lui écrire. Dans quel but? Eh bien, dans le but d'encourager son peuple. L'Apocalypse, c'est donc un livre de réconfort, et non pas pour effrayer le croyant, c'est un livre de réconfort pour les croyants persécutés de toute époque en tout lieu. Parce que Dieu sait quand est-ce que nous avons besoin d'être encouragés. Dieu le sait. Si tu passes par des moments difficiles, Dieu le sait. Si tu te dis personne ne te comprend, Dieu le sait. Il te comprend. Il sait que tu as besoin d'encouragement. Et vous l'avez peut-être vécu, comment un encouragement est tombé à point nommé au moment où vous en aviez besoin. Et cette lettre, elle est là pour nous encourager. Et pour ne pas avoir peur. Et ne craignons pas, si nous sommes en communion avec Jésus qui est glorifié tel qu'il se présente là dans cette lettre, qui est à la fois le roi des rois, prêtre et juge, eh bien nous n'avons pas de raison d'avoir peur, ni de nous décourager. Jésus est aux commandes face aux événements dans ce monde. Et Jésus veut qu'on se sente en sécurité. Et il y a une belle image ici. C'est qu'il tient les 7 chandeliers dans sa main droite. Les 7 chandeliers qui s'appliquent à l'Église. La même main droite qui a touché l'épaule de Jean pour le rassurer, eh bien, elle tient aussi les 7 églises. Elle tient aussi les 7 étoiles qui personnifient l'Église, au verset 20. Ça veut dire que Jésus nous tient dans sa main. Et Jésus, il est au milieu des 7 chandeliers. Il est au milieu de nous, au milieu de son Église. Il nous tient dans sa main pour nous rappeler qu'il est le propriétaire de son Église, que rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Il a autorité pour la diriger. Et lui, c'est lui qui tient l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie entre lui et son Église. Il nous tient, il te tient dans sa main. Il tient chaque Église devant lui, chaque Église locale, que ce soit une grande Église, que ce soit une petite Église, il tient chaque Église locale dans sa main. Et chaque membre aussi. Il en prend soin, il intercède pour elle, il la protège. Et Jésus a promis en Jean 10, 28 que personne ne nous arrachera de sa main. Alors, autre raison de ne pas craindre, eh bien, c'est que de ne pas craindre même la mort, c'est que Jésus est passé par la mort, il en est revenu. Et il a les clés de la mort et du séjour des morts. Selon le verset 18, lui qui est revenu de la mort, qui est ressuscité. Autre raison de ne pas craindre quand on se tourne vers lui. Alors, le pourquoi de cette lettre, eh bien, il y en a au moins deux. La première raison de cette lettre, c'est de nous pousser à l'adoration. Et la seconde, c'est de nous fortifier. Fortifier au présent, à l'avenir. De nous redonner du courage pour nous sentir en sécurité dans la main du Maître et de persévérer en restant attachés à Christ et à sa parole. Il y a aussi une troisième raison, une troisième réponse à cette lettre dans l'Apocalypse. Elle touche à la nature même, l'image qui représente l'Église, ce sont des chandeliers. Quelle est la nature même d'un chandelier ? C'est d'éclairer. C'est de donner de la lumière. Eh bien, une troisième raison à cette lettre, c'est de nous encourager à briller dans ce monde, à briller non pas de notre lumière, mais parce qu'on n'en a pas, mais à briller de la lumière de Christ, celle que lui fait briller sur nous. Nous sommes appelés à être des lumières dans un monde de ténèbres, où les valeurs déclinent, les valeurs morales, à être des lumières dans ce monde. Et je vous relis Matthieu 5, 14 à 16. Qu'a dit Jésus ? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un autre texte pour nous encourager à briller dans ce monde. Un monde de ténèbres, un monde où les gens n'ont plus d'espoir. Un non-croyant, il n'a pas d'espoir. Avec le réchauffement climatique, avec la pandémie, avec la crise sociale, la crise morale, la crise de valeurs. Mais nous, l'Église, nous sommes appelés à être des lumières, à redonner espoir aux gens, en faisant briller la lumière de Jésus. Alors, comment garder notre chandelier allumé? Puisque Jésus l'a allumé, ce chandelier. Comment le garder allumé? Eh bien déjà, en n'étant pas complaisant avec le péché, en ne tolérant pas le péché dans nos vies. Et aussi en nous gardant des fausses doctrines, c'est-à-dire de rester attaché à la parole, de la lire, chaque jour, de nous en nourrir, en nous gardant des fausses doctrines, en pas de complaisance avec le péché. Et puis, surtout, en attendant Jésus, fidèlement, sans nous lasser. Une bonne façon de rester éveillé, c'est de lire la parole et de prier, d'attendre le Seigneur. N'oublions pas que nous sommes appelés l'épouse de Christ en tant qu'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse que Jésus veut. Il nous veut, comme une mariée en blanc, pour partager sa gloire. Imaginons une fiancée à qui le fiancé a promis de revenir, mais cette fiancée, elle se lasse d'attendre. Alors elle se néglige dans son habillement, décolleté, alors que son fiancé lui a bien dit qu'il revenait bientôt. Mais la fiancée n'a pas attendu, elle est allée voir ailleurs. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on reste attaché à lui. Il veut nous inciter à l'attendre comme s'il revenait aujourd'hui ou demain. En tout cas, il nous a dit qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Et c'est pour ça qu'il nous a pas dit, il nous a pas donné de date de son retour. Vous ne trouvez pas de date dans ce texte-là. Parce que nous sommes invités à l'attendre comme s'il revenait là, aujourd'hui, maintenant. Alors, il y a un détail qui a son importance au verset 9. Quand est-ce que Jean a eu cette vision de Jésus glorifié? Il l'a eu le jour du Seigneur, au verset 9. C'est ce même Jésus, crucifié, mort pour nos péchés, ressuscité et glorifié, qui nous réunit chaque dimanche. Un Jésus qui se veut rassurant pour nous croyants et qui sera terrifiant pour le non-croyant. Croyons que Jésus a aimé son Église, qu'il l'aime, qu'il nous aime, et croyons qu'il la gardera, il nous gardera. Puisque Jésus veut nous garder, à nous de garder sa parole, de vouloir garder sa parole. Et sa parole, elle nous gardera. Ne nous inquiétons pas si on ne comprend pas tout. Et si vous avez déjà lu l'Apocalypse, il y a des visions qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a jamais vu rien de pareil sur cette terre. Même si on ne comprend pas tout, eh bien, gardons la parole de Dieu. Il nous a demandé, non pas de tout comprendre, mais de croire. Et cette parole, elle nous gardera. Amen, je vais prier. Seigneur, c'est vrai qu'on n'a pas fini de te connaître, Seigneur. Tu veux qu'on te connaisse, Seigneur, et c'est vrai que faire connaissance avec toi, ça, c'est pour l'éternité, Seigneur, parce que tu es si grand. Et Seigneur, tu veux tellement qu'on soit près de toi, parce que tu nous aimes, tu l'as montré. Et Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu as pris nos péchés à la croix pour enlever la séparation qui nous séparait de toi et bien sûr pour qu'on soit tout le temps réunis à toi, ensemble et avec toi. Seigneur, nous savons et nous croyons, Seigneur, que tu nous tiens dans ta main droite, Seigneur. Alors nous pouvons dire, nous sommes en sécurité. Seigneur, je prie non seulement pour nous ici, à Figeac, mais aussi pour tous ceux qui sont persécutés au loin, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Inde, en Afghanistan, en Corée du Nord. Seigneur, pour que tu leur manifestes ta présence rassurante. Seigneur, qu'ils gardent, Seigneur, ta parole, qu'ils gardent la foi. Aide-nous, nous ici, à la nourrir, Seigneur, cette foi avec ta parole, et que nous soyons des lumières, que, Seigneur, nous sachions briller dans ce monde, où tu nous laisses encore le temps que tu as décidé, Seigneur, pour te refléter. Et Seigneur, merci, parce que c'est vrai que cette vision nous invite à t'adorer. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es notre grand prêtre, celui qui prie pour nous, tu es celui qui juge les cœurs aussi. Et Seigneur, pour cette raison, nous t'adorons et merci pour être à ce point, Seigneur, notre sécurité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.